Actu SF, les podcasts.
Alors je suis ravi de vous voir si nombreux encore pour l'avant-dernière conférence sur Chaillol, je pense, si j'ai bien lu le programme. Donc la table ronde de ce soir, enfin la table ronde de maintenant, c'est une main sur l'épaule. Donc j'ai des les invités, c'est rigolo. It's open, yeah. Donc les intervenants de ce soir, donc immédiatement à côté de moi, donc c'est Alexander Weinstein. Donc Alexander Weinstein, il est auteur de science-fiction. Il a notamment sorti, vous avez peut-être vu l'adaptation en film très récemment, de After Yang, qui est un recueil de nouvelles, de 13 nouvelles de science-fiction, et notamment qui parle du changement climatique et de l'influence un petit peu de l'homme sur la société et des impacts potentiels que ça peut avoir. Donc on va en parler pendant la table ronde. Hervé Tancrel, donc qui est auteur de bande dessinée, notamment connu pour Groenland Vertigo. Hervé Tancrel, qui a une expérience physique sur l'épaule, qui a accompagné des explorateurs, des expéditions polaires. Donc il va pouvoir nous parler de son expérience. Et enfin, Roland Lehoucq, notre président, qui est donc astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc voilà, qui remplace un peu au pied levé l'intervenant qui devait venir normalement, qui était Sigbjørn Skadden, mais qui ne peut pas venir. Donc Roland, de par ses obligations, va devoir nous quitter 10 minutes plus tôt. Donc à 6h-10, je lui ferai signe pour qu'il puisse choper son train. Donc je vais faire un peu le synopsis de la table ronde que vous avez tous eu dans le programme. Donc dans l'imaginaire, les pôles dissimulent dans leur linceul de glace les forteresses solitudes, pour ceux qui connaissent Superman, ou celles des méchants de James Bond. Les villes, les souvenirs ou les restes des très anciens. Peu habités et souvent inhabitables, ils sont les derniers territoires vierges de la planète. Pourtant, les conséquences de l'action humaine y sont particulièrement cruciales, de réchauffement en pollution. Quel avenir pour les pôles ? Alors peut-être on peut commencer avec Alexander. Peut-être tu as écrit une nouvelle qui s'appelle Ice Age, avec justement un nouvel âge de glace qui s'abat sur la planète et les conséquences que ça peut avoir sur l'humanité. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de ta nouvelle et puis de ce que tu as projeté un petit peu dans ton travail?
So a good deal of my work looks at environmental disaster as a backdrop of a new civilization that we're hanging out in. And so in Ice Age, we have this new Ice Age that comes and covers the whole planet, killing many people, obviously. But we begin in a father talking about that it's getting cold in the igloo. And the poor people, it turns out, that have survived are living in a single igloo. And there's one rich guy who lives in a double-decker igloo up on the hill. And the problem, the conflict, is that the rich guy is burning up all of the trees that stick up over the ice in order to burn down to the old society so you can get everything from cans of food to clothing to the rich guy is hoping to find some tennis rackets and build an ice tennis court and such things. So what I look at in the stories when I move forward, you can hear a slight absurdity in the world we find, is the absurdity of where we find ourselves now, right? The kind of, that story was based on Occupy Wall Street was going on at that time. And so I was really looking at this have and have not. In another story, the world is flooded. So it's the exact opposite. Or maybe this one may take place right before this ice age, before it gets cold. And in this world, just where you have enough elevation, you have islands left. And you also have the tall skyscrapers where people are living. and a father and son live on one of these islands, and they have scuba gear. And so they go out and they dive down below again to try to find things that they can use. And not always practical. A record player, the father wants to find old records to be able to fix and then start to listen to the old world again. And so, yes, in my fiction, I'm looking at how does environmental disaster affect us, but also in a very humorous or tongue-in-cheek way.
Et donc peut-être, Roland, si tu peux rebondir sur le, justement sur ces, les conséquences que peuvent avoir le changement climatique sur peut-être la montée des eaux, la glaciation.
Alors effectivement, les pôles sont les régions les plus froides du globe, parce que tout simplement, d'abord du point de vue astronomique, elles ne sont pas éclairées comme les autres régions. Elles sont éclairées bien sûr par le soleil, mais dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, elles peuvent rester, les régions les plus proches des pôles, soit le pôle nord, soit le pôle sud, elles restent des mois et des mois, en fait à peu près la moitié de l'année pile au pôle, dans la nuit totale ou dans le jour, mais avec un soleil toujours assez bas sur l'horizon et dont les rayons arrivent très inclinés sur le sol et donc chauffent assez peu le sol. Donc ce sont des régions les plus froides et qui sont aussi du coup difficiles d'accès. Il a bien fallu des expéditions, il y a toute une histoire de la, comme on dit, conquête des pôles pour aller au pôle nord. Aller au pôle Nord, c'est-à-dire que ce n'était pas si simple, parce que le pôle Nord, la zone arctique, c'est de la glace flottante. Et donc la position géographique du pôle, si on la repère sur la glace et qu'on attend en fait un peu de temps, mais pas très longtemps, quelques semaines, quelques mois, le bloc de glace sur lequel on a posé le repère, il s'est déplacé. Donc aller au pôle, ça nécessite de bouger un peu en permanence pour atteindre ce pôle, parce qu'en même temps, le sol, d'une certaine façon, se déplace très lentement. Du côté de l'Antarctique, c'est plus simple, d'une certaine façon, enfin plus simple et pas plus simple. Plus simple parce que ça ne bouge pas, c'est un continent couvert de glace, de plusieurs kilomètres de glace, mais évidemment il y a des montagnes, notamment le fameux mont Erebus et d'autres montagnes qui font que c'est un continent, c'est pas horizontal tout le temps, il y a des vents considérables, il y a des vents orographiques, c'est-à-dire des vents qui sont dus au relief, notamment ces fameux vents katabatiques qui descendent, qui sont extrêmement froids et qui descendent le long des flancs des montagnes centrales où l'air est encore plus froid qu'au bord et qui font des vents puissant en vitesse et extrêmement froid. Donc c'est dans des endroits qui sont, disons, difficiles d'accès. Et il se trouve que dans le réchauffement climatique en cours, les pôles fondent, la glace des pôles se gèle pendant la saison hivernale, l'eau gèle pendant la saison, et puis se fond un peu pendant l'été, et qu'il y a toujours un équilibre qui se faisait. Maintenant, elle se reforme moins, elle regèle moins qu'elle ne dégèle, ce qui produit des pôles dont la surface, dont l'extension en kilomètres carrés, par exemple pour le pôle Nord, pour l'Arctique, diminue. Et puis pour le pôle Sud, identiquement. Alors le pôle Sud, c'est un peu plus subtil, elle est plutôt stabilisée, mais il perd des masses de glace, l'épaisseur diminue. Et puis de temps en temps, il y a des gros blocs de glace, des gros morceaux de glace qui tombent et qui forment d'immenses icebergs qui se déplacent. Et donc cette perte d'eau solide a des conséquences, parce que les pôles sont importants par les vents qui tournent autour, par la régulation thermique de l'ensemble de la planète, mais aussi parce que l'eau qui fond, alors l'eau, la glace qui fond, mais la glace posée sur les continents, donc le pôle sud, l'Antarctique, mais aussi le Groenland, qui n'est pas au pôle, mais enfin qui est non loin du pôle, mais qui est de la glace posée sur un continent, les Inland Seas, cette glace qui fond, elle va dans les océans, elle participe à l'élévation du niveau des océans. Le deuxième élément d'élévation du niveau des océans, c'est la dilatation thermique de l'eau. Il fait plus chaud et l'eau va légèrement se dilater, pas grand chose, mais sur le premier kilomètre d'épaisseur, ça fait tout de suite plusieurs dizaines de millimètres de hausse des océans, même quelques centimètres si on intègre sur une longue durée. Plus l'eau qui arrive, les niveaux des océans montent. La glace qui flotte, la glace du pôle Nord, si elle fond, elle ne fait pas varier le niveau. Si vous, petite expérience, vous prenez un glaçon, vous le mettez dans un verre d'eau, vous relevez le niveau de l'eau, et vous laissez fondre le glaçon, à la fin, le glaçon, le niveau de l'eau n'a pas bougé alors que le glaçon a disparu. Il y a plus d'eau liquide, mais il y a moins de glaçons qui poussent l'eau et qui fait monter le niveau parce qu'il flotte sur l'eau, il exerce sur l'eau une force, son poids, qui monte légèrement le niveau de l'eau. Bref, au final, la fonte des pôles est très importante. Elle a des conséquences elle est manifeste avec le réchauffement climatique. Elle est beaucoup plus sensible en plus au réchauffement climatique en termes de hausse de température au niveau des pôles qu'au niveau, disons, équatorial, au niveau continentaux habituel, même si elle est aussi très sensible dans ces endroits-là. Et le fait que les pôles, les glaces posées au sol, les Inland Seas, donc le pôle sud, l'Antarctique et le Groenland, mais aussi les glaciers qu'on trouve sur les montagnes, dans les Alpes, dans l'Himalaya, les glaciers andins, eh bien que la fonte de ces glaciers, ça ajoute de l'eau liquide dans les océans et ça fait monter leur niveau et ça a des conséquences très concrètes pour tous les peuples qui vivent très au-delà, très en dehors des pôles, mais qui sont sensibles à la hausse du niveau, les gens sur les îles et sur les côtes.
Et alors Hervé, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience d'expédition, de participer à une expédition en tant qu'auteur et comment tu as transcrit finalement cette expérience dans ton travail artistique?
Oui, alors moi c'était un peu particulier. Déjà ça remonte, c'était en 2011, donc il y a 11 ans. Je suis parti sur un bateau, effectivement, avec une expédition danoise, et avec des scientifiques et des artistes, et notamment l'écrivain Jørn Riel, dont j'avais adapté des nouvelles qui se passent au Groenland. Mais je dois vous avouer que j'étais avec des artistes, surtout des scientifiques danois, quasiment tous, je crois, et que je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'ils disaient. Et donc, malheureusement, ma grande frustration pendant ce voyage, c'est de ne pas avoir pu vraiment beaucoup parler et comprendre leur travail sur place. Et il y avait notamment un géologue très reconnu, Minnie Crossing, avec qui j'aurais tant aimé pouvoir parler de toutes ces recherches. Et donc il y a eu cette frustration, ce qui fait que mon récit que j'ai fait dans Groenland Vertigo est finalement un racontard à la manière de Jørn Riel, c'est-à-dire une histoire vraie qu'on pourrait prendre pour un mensonge, à moins que ça soit l'inverse. Donc c'est quelque chose de voilà, moi j'ai joué vraiment sur de l'humour, quelque chose de très léger, parce que justement, entre autres, parce que je n'avais pas pu accéder aux connaissances et à des conversations plus poussées avec les gens avec qui j'étais. Donc, d'où ma difficulté de parler du travail des scientifiques quand j'y étais. Mais ça a été une expérience incroyable, quoi qu'il en soit, de pouvoir aller au Groenland, et là, pour le coup, au nord-est du Groenland. Donc, c'est un parc national géographique où ont vécu pendant des années des trappeurs à qui on a demandé de partir dans les années 50. Et donc, c'est une réserve naturelle monumentale. Le Groenland, c'est 4 fois la France et c'est 56 000 habitants à peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une terre quasiment vierge. Et l'Inlandsis, je crois que c'est 85% du Groenland, de la surface du Groenland. Donc, voilà, quand on est là-bas, on est totalement fasciné par ces étendues. On est hors de l'écoumène, pas de... Voilà, très peu de traces de l'homme, et surtout au nord-est qui n'est absolument pas habité, à part par des scientifiques et des militaires danois. Pour moi, ça a été une révélation. Je rêve régulièrement d'y retourner, clairement. Et j'ai pu donc faire 2 bandes dessinées autour du Groenland, donc les racontars arctiques, qui était donc une adaptation des nouvelles de Jørn Riel, et donc Groenland Vertigo, cette autofiction sur mon voyage. Et là, je travaille actuellement aussi sur une histoire qui se situe au Groenland, mais fin du 15e, début 16e. À la fin de l'occupation, des communautés vikings qui ont disparu après plusieurs siècles de présence viking. On sait maintenant plus ou moins pour quelles raisons elles n'ont pas pu finalement rester en place, même si il y a beaucoup encore d'inconnus et c'est multifactoriel. Donc, ma BD, cette bande dessinée avec qui je la fais avec Alain Hérol, qui est un scénariste, et elle ne traite pas spécifiquement de ça, mais évidemment, on est quand même directement dans cet univers viking, on va dire en fin de vie, quoi.
Et donc, si on se projette un petit peu dans les conditions de vie qu'on pourrait avoir si on avait un nouvel âge glaciaire, par exemple. Donc, Roland, tu parlais des vents terribles qu'il y a en Antarctique. Ça semble très inhospite, quand même.
Clairement, les zones polaires restent quand même des zones très difficiles d'accès et très inhospitalières. C'est-à-dire, avant de savoir si on est capable de faire une base lunaire ou une base martienne, il faut être déjà capable d'habiter les zones polaires en permanence, ce que nous ne faisons pas, essentiellement... on n'est pas en permanence, en tout cas pour la Terre à Adélie, je ne sais pas, McMurdo pour les Américains, je crois qu'ils y sont en permanence, mais la base française, elle n'est pas la base, je ne sais plus comment ça vient, Dumont-Durville et puis celle qui est plus à l'intérieur, Concordia.
Ouais.
Concordia, merci. Elle n'est pas habitée tout le temps. Il peut y avoir des hivernages, et les hivernages, c'est des conditions très difficiles, c'est-à-dire que les personnes sont complètement coupées du monde pendant 6 mois, réellement 6 mois. Donc il faut se débrouiller intégralement avec ce qui est sur place pendant 6 mois, y compris problèmes médicaux, tous les problèmes qui vont se poser. Donc d'une certaine façon, ces zones polaires très inhospitalières, on n'est pas dans une dynamique actuelle où elles vont s'étendre. C'est plutôt exactement l'inverse. Avec le réchauffement climatique, elles vont s'étendre. Mais ce sont des zones très inhospitalières qui peuvent être extrêmement intéressantes, précisément pour étudier les humains dans des conditions carcérales volontaires, d'une certaine façon, où ils sont, il faut tout emmener. Et si vous manquez un truc, ben, tant pis, vous ne l'avez pas. Ça pourrait ressembler un peu aux difficultés d'approvisionnement d'une base lunaire, et a fortiori d'une base martienne. Et donc, tant qu'on n'est pas capable d'habiter en petit nombre d'humains, parce qu'en grand nombre, il n'en est pas question non plus, mais en quelques dizaines ou même peut-être quelques centaines d'humains dans les pôles ou dans les zones antarctiques en particulier, parce que le pôle Nord, ça dérive, il y a des gens des navires qui se sont laissés piéger volontairement dans les glaces et qui se sont laissés dériver pour étudier la formation et la déformation, la transformation des zones polaires au rythme du déplacement. Et pris à un endroit et libéré à un autre pendant la période hivernale et libéré pendant la fonte. Et donc la zone antarctique, elle peut être un laboratoire extrêmement intéressant. Pas besoin de faire de base lunaire pour comprendre si on veut étudier le recyclage, si on veut étudier la difficulté de vivre entre humains dans une boîte fermée où on ne peut pas sortir parce que dehors c'est inhospitalier. Bien sûr, on peut mettre sa grosse doudoune et sortir, il y a de l'air, il fait quand même frais. Sur la Lune, ce n'est pas la grosse doudoune qu'il faut, hein, c'est le scaphandre, il faut les bouteilles, c'est compliqué. Donc si on veut étudier tout ça, donc tout ce qu'on nous dit sur les bases lunaires, extrêmement utile pour développer plein de techniques géniales qui vont servir sur les humains pour le recyclage, pour la vie en communauté, pour toutes les techniques qui peuvent servir à mitiguer, comme on dit, à atténuer le réchauffement climatique, ou les techniques nécessaires pour pouvoir mieux vivre, s'adapter à ce réchauffement climatique, eh bien, on peut tout à fait les tester ici et maintenant sur Terre, dans les pôles. Il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune. Et puis, quant à la possibilité que les pôles grossissent en taille, que la zone glacée augmente, alors ce n'est pas du tout la dynamique actuelle, mais il y a eu des époques dans le passé qu'on appelle cryogéniens, 700 millions d'années, quelque chose, il faudrait vérifier le chiffre, mais quelque chose comme 700 millions d'années dans le passé, où la Terre était dite Snowball Earth, la Terre boule de neige, la Terre boule de glace, où il y avait une emprise des glaces extrêmement importante sur l'ensemble de la surface de la Terre, sauf peut-être des eaux libres dans les zones équatoriales, mais on le voit dans la région lyonnaise, il y a des traces de moraines, il y a des traces de glaciers à Lyon, de glaciers qui ont gratté le sol par leur présence, et on voit ces traces maintenant de glaciers qui datent de centaines de millions d'années dans le passé. Enfin, on voit. Les géologues voient, moi, bon, c'est mon copain géologue lyonnais qui m'a expliqué ça. Mais je veux dire par là que donc, la Terre a été à un moment donné effectivement énormément couverte de glace. Donc c'est une possibilité concrète du passé, peut-être dans le futur, mais ce n'est pas le futur proche. C'est le futur peut-être dans des centaines de milliers, peut-être un million d'années.
Et alors du coup, Hervé, tes conditions de vie pendant l'expédition polaire, si on parle des conditions de vie inhospitalières dans des périodes de grand froid, en expédition comme ça, au Groenland. Comment tu raisonnes avec ça? Comment ça s'est passé?
Alors moi,
comment tu peux témoigner, tu vois?
Déjà, c'était en plein été, moi. Donc, ouais. Les conditions de vie étaient beaucoup plus agréables qu'en plein hiver. C'était sur un vieux gréement en trois mâts et il y avait une barrique de rhum. Donc, tout était parfait pour l'accueil de l'équipage. Et non, j'ai pas beaucoup souffert des conditions climatiques, je dois bien le reconnaître. Mais par contre, c'est vrai qu'on pouvait notamment, on a visité ces fameuses cabanes, voire parfois c'est vraiment des cabanes, parce qu'il y a aussi des stations qui sont plus importantes. Mais c'est des petites cabanes qui sont souvent à une journée de marche, chacune les unes des autres, pour justement éviter qu'on se retrouve coincé en plein milieu du Groenland pour une raison X ou Y. Et ça, on peut juste s'imaginer en entrant dans ces cabanes où il y a un petit poêle, toujours du bois, toujours un peu de nourriture, parfois périmée, mais quand même, des allumettes toujours présentes. Et on peut s'imaginer en plein cœur de l'hiver dans ces huttes. Et ça, c'est pour le coup, j'ai juste fait marcher mon imagination au moment où j'étais présent dans cet univers où on sent bien, même si en été, ça reste plus agréable. Mais en été, il faut quand même toujours aussi avoir un fusil, si on sait s'en servir, ou avec des gens qui ont un fusil, parce qu'il y a les ours blancs, le danger des ours blancs, essentiellement. Donc on sent bien cette hostilité présente, quoi. On ne peut pas aller se balader comme on voudrait. Moi, je suis resté coincé dans un village pendant une semaine à la fin du séjour, et malheureusement, je ne sortais pas. On m'avait vraiment formellement interdit de sortir du village pour des raisons d'ours blancs, quoi. Donc j'imagine en hiver, évidemment, toutes les autres possibilités de tempêtes, de blizzards qui créent vraiment cet univers et qui aussi a fait que la communauté groenlandaise, puisqu'on parle vraiment d'une communauté, ils sont finalement si peu nombreux sur un continent aussi gigantesque, a su pendant des siècles créer quelque chose d'exceptionnel, d'une façon de vivre très surprenante, très rude aussi évidemment, hein. Mais et on sait que c'est les premiers impactés, eux, par le réchauffement climatique. Moi actuellement, je ne fais rien, aucun album là-dessus, mais je suis dès que je vois un article sur le Groenland et surtout sur le réchauffement, enfin sur le changement climatique, je le lis directement parce que ça me fascine, ça m'attriste aussi, mais pas que, parce qu'il y a aussi plein de raisons, non pas d'espérer, mais de voir qu'il y a des choses nouvelles qui se créent du fait de la fonte des glaces. Alors il y a évidemment le danger des terres rares, des minerais, qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui sont très intéressés pour venir s'implanter, que ce soit les États-Unis, la Chine ou autre. Mais tout ce rapport, tout ce qui se passe au Groenland actuellement m'intéresse profondément. Et le fait d'y être allé, évidemment, voilà, j'ai une espèce de petit lien ridicule, mais à mon niveau, mais qui me fascine toujours, quoi, voilà.
Et du coup, Alexander, si on se projette justement dans ce changement climatique et peut-être cette montée des eaux, comment tu pourrais nous raconter un petit peu cette projection que toi t'as faite dans tes nouvelles?
So, obviously, I come from this at a speculative fiction angle, and so there's really, I should preface this by saying everything that I'm going to say is not scientific. In fact, I don't dive into the science of it. But I could foresee, join me now as I go into the future, into the fictional future, that as a speculative fiction writer, one of the choices you have is it going to be a desperate, dire situation? And of course, let's not take this lightly. It is a desperate, dire situation. It is totally worrisome to see this. It is a tragedy. But that's one kind of dystopian fiction. And I tend to lean towards that I think we will find a way that humanity, even within the dire situation, seems to find a way to hold on to its heart, to keep the heart from freezing, we could say. So I can foresee now that we will have the Utopiales Festival will continue, but everybody's going to be rowing there, you know, and so we have to row to get in through the door, you know, but or in the very freezing, if we take the ice age, you know, there's a big bonfire that we stand around, you know, and we warm ourselves up, because even though we live these horrible lives back home with the gun and the matches and a little bit of this, you know, we still need to go and talk to the other, like, people that like to think strange thoughts about science, or the librarian in the igloo who has all of the library books to lend out, right? Or something like this. So I think a lot about that kind of a world that we haven't lost ourselves yet. In my story, Ice Age, for example, one of the characters has built a disco igloo, and they have an iPod with a solar panel, and they're able to then, like, have disco night with a couple of the liquor bottles that they still have. And everybody comes, and the liquor bottles are getting watered down every time. They put more melted snow in it. Nobody gets drunk except the one fool that always thinks that he's drunk and, like, stumbles out. But the point of that is that I think our hearts will still be there, that we still want kindness. We still want togetherness. In the pandemic, when we were forced apart, and it was horrific, and it was frightening, and it was all of this. Amid all this, there was this guy, Marc Rebillet, who begins doing disco, techno in his underwear in his apartment, and gets millions of followers. If you've never watched a Marc Rebillet session, it's worth seeing. I would never have expected that somebody in a robe in their underwear would be playing techno music, and that would be what we were all watching. And I think this is a testament to the kind of a beautiful piece of humanity that I often try to capture in my fiction.
Je voulais faire une remarque sur ce que disait Alexander tout à l'heure. Lui, il est plutôt dans un monde qui est en train de geler, et donc où la glace progresse, et puis les humains essaient de survivre dans ce monde glacé. Et ils creusent dans la glace pour retrouver, au fond, des objets, des iPods, des objets techniques qui sont là et qu'ils ont les plus grandes peines à fabriquer dans ce monde qui est devenu très difficile pour les humains. Alors, cette idée de glace comme, qui retient une mémoire, elle est très présente, très concrètement en science, pas pour retenir des artefacts qu'on irait fouiller dans la glace très profonde, mais j'en vois au moins deux. Le premier, de nature astronomique, qui est le fait qu'il y a des objets qui tombent du ciel, des micrométéorites qui tombent du ciel et qui tombent en particulier sur les pôles. Et dans la partie polaire, c'est assez facile de récupérer les micrométéorites. Faisait ça un ancien qui travaille, qui est à la retraite, Michel Morette, qui travaillait à l'université dite Paris-Saclay, maintenant, dans le sud de Paris, au sud de Paris, et qui faisait fondre un grand cube de glace. Donc il prenait tout un grand cube de glace, il faisait fondre l'eau, il filtrait l'eau, et tout ce qui restait, c'était des micrométéorites. Et puis l'analyse des micrométéorites permettait de déduire tout un tas de choses sur notre système solaire. Donc il y a une archive, finalement, de micrométéorites qu'on peut ramasser facilement sur l'épaule. Et puis quand elle est une fraîchement tombée, c'est carrément un caillou noir sur fond blanc, alors ça se voit immédiatement. Et puis de l'autre côté, du côté archive, il y a aussi, comme on fore dans la Terre pour obtenir des informations géologiques sur les temps anciens, on peut forer dans la glace, c'est ce que l'on fait encore régulièrement dans les glaces polaires, notamment les glaces antarctiques. Et en forant dans les kilomètres de glace antarctique, il y a des petites bulles d'air qui ont été emprisonnées au moment où la glace s'est formée. Et ces petites bulles d'air, elles portent témoignage de la composition de l'atmosphère au moment où la glace s'est formée. Et ce moment, il est d'autant plus ancien qu'évidemment la glace est profonde. Et les gens qui sont les glaciologues qui étudient tout ça, ou les climatologues qui étudient cette paléoclimatologie, sont capables de dire telle profondeur, 10 000 ans en arrière, plus profond, 20 000 ans en arrière, etc. Et comme ça, on a une archive climatique de la Terre sur 800 000 ans. Et donc cette archive glaciaire, avec des carottes qui sortent de glace, qui sortent et que l'on est capable d'analyser maintenant, nous permet de dire ce qui se passe sur 800 000 ans d'archives glaciaires. Petit détail que j'ai appris récemment et qui est lié aussi à notre triste condition actuelle, il y a une guerre en Ukraine catastrophique, il y a des problèmes d'approvisionnement en gaz en Europe en général et en France en particulier. Il y a des problèmes peut-être de tension sur le réseau électrique parce que du coup, on va mettre plus d'électricité, moins de gaz, bref, c'est compliqué. Il y a des universités qui ont des problèmes pour maintenir en fonctionnement à cause du prix de l'électricité qui monte et peut-être de coupures d'électricité qui pourraient être plus longues qu'on ne l'espère. Ils auront peut-être des problèmes pour maintenir, c'est ce que me disait un glaciologue, ils ont des centaines de mètres d'archives de carottes glaciaires qui ont été prises de l'Antarctique, stockées dans des frigos spécialisés pour ça, et que s'ils ne fonctionnent pas correctement, l'archive, elle fond. Et du coup, tous les efforts qui ont été faits pour récupérer... Vous voyez, je dis ça, c'est une petite histoire toute simple, mais qui montre à quel point des problèmes très humains, très concrets, ont des conséquences dans tous les sens. Et à l'inverse, forer dans cette glace pour y trouver des archives... Alors, dans le cas d'Alexander, c'est des archives très concrètes. On sort un objet. Ah, c'est super, j'ai trouvé un iPhone qui est dans le... ou un objet qui est là. Là, c'est trouver des informations sur un passé lointain de l'atmosphère de la Terre par ces micro-bulles d'air emprisonnées dans la glace. Donc voilà, pour faire le lien avec cette notion d'archive glaciaire qu'Alexander utilise dans son roman, dans ses textes.
Non, et puis si j'ai bien compris, Alexander aussi, tu as aussi exploré la possibilité d'avoir un monde totalement immergé et avec justement les gens donc, qui sont là dans ce monde d'eau, finalement, vont faire de la plongée sous-marine pour aller chercher des artefacts finalement de l'ancien temps, un petit peu comme ce que tu décrivais pour les glaces, mais là, dans l'eau liquide, finalement. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu as exploré dans ta fiction ?
Yeah, this idea of going down and finding things and finding our history or figuring out the past or nostalgia or memory, you know, and where those metaphors are for me is really powerful. Like that in this case, the father and the son who are out diving, the father, like I mentioned, brings up a gramophone or an old record player and is then cannibalizing the parked cars he can get for like some of the batteries and figure out if he can wire back up the machinery of the turntable to play jazz music because he misses jazz music and he wants his son to hear music again. So there's this kind of way that all of this plays out in a deep poetic metaphor for me of what we lose, what's frozen underneath the surface. And on the other side, you know, as you were talking about all the problems that we also face, these like the shortages of gasoline, I've heard that because of this Bitcoin mining, it's helping the Arctic melt because of the amazing amount of energy expenditure for this frankly ridiculous project that we are heading down that may destroy the Earth, right? So my characters are always acting against a kind of danger of the capitalist model or the capitalism that's driving a technology that doesn't yet help us. And there's this question of a green technology, or I suppose solar punk really gets into this, of like, how do we use this technology to help us figure out so that we don't have these major crises? That's a really big leap, you know, and that's the kind of next place for me in my fiction that I want to explore is how do we begin to create a better future given everything that we have rather than creating a multi-million dollar porn industry or whatever it is, online gaming. This seems a waste of our intellectual capacity to some degree.
Et peut-être pour revenir sur, encore sur une note pas forcément très joyeuse, mais c'est ce que tu disais, Hervé, sur l'émergence de nouvelles terres suite à la fonte justement de la glace. C'est-à-dire que toute une industrie qui est d'autant plus polluante, l'industrie minière qui irait exploiter ces nouvelles terres, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, qui te touche.
Donc, je... En fait, c'est toujours, quand on lit beaucoup, les articles autour de toute cette... de toutes ces nouvelles terres qui enfin en fait la possibilité de forer du fait de la fonte des glaces, il y a effectivement des forts sujets d'inquiétude puisque donc il y a une volonté de beaucoup de compagnies étrangères de s'installer au Groenland. Alors ce qui est plutôt rassurant actuellement, c'est que le gouvernement groenlandais, puisqu'ils ont l'autonomie et qu'ils ont la possibilité de c'est eux qui peuvent comment dire gérer leurs ressources sur place. Pour l'instant, ils sont pas mal opposés à des gros projets, notamment un projet d'extraction d'uranium, je crois, parce qu'ils ne ça les inquiète évidemment beaucoup quand il s'agit de minerais dangereux ou autres. Donc il y a une volonté en tout cas de ne pas ouvrir le jeu comme ça d'une manière complètement irraisonnable. Bon, mais le problème c'est que ça peut aussi, déraisonnable, et ça peut aussi changer très rapidement si ça change de gouvernement. On n'est jamais à l'abri de changements très rapides. Il y a aussi à l'inverse des choses positives, notamment ils se rendent compte qu'il y a des bouts extrêmement riches qui se trouve sous la glace. Alors je serais incapable d'expliquer ça de manière scientifique, mais c'est notamment ce géologue Mini Crossing qui vit au Danemark mais qui est groenlandais d'origine qui a fait cette découverte. Et ce sont des boues qui pourraient fertiliser des sols dans le monde, des sols pauvres, des sols arides, et pour l'instant les essais sont en cours. On a pu démontrer que c'était 30% de plus de fertilisation sur certains sols dans je ne sais plus quel pays, je crois d'Amérique du Sud ou autre. Et ça, ce sont des nouvelles possibilités. Donc c'est toujours pareil, dans une problématique, il y a à la fois toujours du bon et du mauvais à trouver. De même que l'hostilité du Groenland a permis aussi, à sa manière, de fonder des communautés très resserrées, très fortes dans l'adversité. Et de même manière que mon voisin le disait pendant la pandémie, c'est là aussi qu'on se serre les coudes et qu'on peut faire communauté, quoi. Beaucoup plus peut-être que parfois dans des moments où finalement tout va bien et où les choses se délitent beaucoup plus rapidement, quoi.
Oui, c'est sûr que la fonte des pôles, enfin la fonte des glaces, notamment des glaces du pôle Nord, au voisinage du pôle Nord, c'est une pour le commerce international, c'est une occasion unique. Finalement, il y a des voies qui avant étaient fermées à la circulation marine 6 mois de l'année parce qu'elles étaient prises par les glaces, et maintenant elles ne le sont plus ou plus autant. Il suffit d'un gros brise-glace pour passer là où avant nul ne passait. Et donc le passage, le fameux passage du Nord-Ouest, tout le contournement de la Russie par le nord. Et toutes ces routes-là sont en train de s'ouvrir. Sont en train de s'ouvrir d'abord au commerce, aux voies commerciales qui peuvent raccourcir considérablement les durées de transport. Et sont en train de s'ouvrir aussi pour pouvoir aller exploiter. Là, c'est pour la partie du sol, pour le Groenland. Mais s'il y a du sol maintenant qui n'est pas couvert par des centaines de mètres de glace, il n'y a plus qu'à creuser et exploiter d'éventuels minerais en dessous. Identiquement, l'exploitation de pétrole dans la mer Arctique, des pétroles sous-marins, des pétroles au sens sous le sol de l'océan, ben on sait faire ça très bien en mer habituelle. Eh bien, il y a des endroits qui étaient tout à fait inexploitables à cause du gel de l'océan pendant la période hivernale, gel qui est beaucoup plus court, voire nul dans certaines régions maintenant, alors qu'il l'était avant. Et donc, d'une certaine façon, pour le monde capitaliste, c'est une opportunité incroyable. Et à la limite, tu pourrais se dire, ben, super, le réchauffement climatique, ça nous ouvre des voies commerciales, des possibilités de business bien supérieures, des capacités d'extraction d'endroits où l'on ne pouvait pas aller avant, et du coup peut-être plus simple à exploiter, pas tant plus simple mais surtout plus riche, parce qu'il y a deux éléments dans l'exploitation d'une mine. Il y a, est-ce qu'elle est facile d'accès, et est-ce que le minerai que j'en tire, la roche que j'en tire contient une fraction importante du matériel qui m'intéresse, du fer, du cuivre, de l'uranium ou de je ne sais quoi, ou de je ne sais quel matériau, ou de l'indium ou de quel matériau. Et donc si on se retrouve à des zones qui sont peut-être encore un peu difficiles d'accès, mais qui ont une très grande teneur dans l'objet minéral que l'on veut extraire, ça peut être tout à fait rentable, évidemment, du point de vue industriel. Et donc, ces choses-là, il n'y a pas de doute, elles vont s'ouvrir, parce que, bien sûr, pour ces populations, les 50 ou 100 000 habitants du Groenland, ils voient bien leurs conditions de vie, ils voient bien les moyens financiers qu'ils ont. Ils voient bien quand même que quelques dizaines, centaines de millions de dollars supplémentaires, peut-être ça leur ferait pas de mal pour qu'avoir des communautés qui vivent mieux. Et il faut reconnaître que ces minéraliers vont arriver avec un gros chèque, hein, d'une façon ou d'une autre. De gros ennuis, de pollution éventuellement, bien sûr, mais avec un gros chèque. Donc c'est toujours compliqué, ça va être très compliqué de cette gestion-là. Parce que bien sûr, comme on l'a vu dans le pétrole de schiste aux États-Unis, ben, les gens étaient d'accord pour louer leur sous-sol et utiliser l'utilisation du sous-sol pour toucher un salaire. Mais après, camarade, regarde ta ville, regarde ta région, elle est toute abîmée, toute détruite. Donc voilà, il y aura cette ambivalence-là, elle est déjà présente, elle le sera de pire en pire. Ça ne se pose pas encore trop du côté de l'Antarctique, parce que ça reste une couche de glace très épaisse et un continent vraiment très difficile. Mais pour le Groenland, c'est directement assez facile d'accès, assez proche de terres émergées riches, avec des moyens techniques considérables, toute la zone européenne, les Russes, de l'autre côté les Américains, le Canada. Donc c'est évident que le Groenland, il va y avoir une pression extrême, il y a même Trump avait proposé, on ne sait jamais trop, c'était une plaisanterie ou pas, mais d'acheter le Groenland, oui. Carrément, pour dire, bah, comme ça, on l'aura, puis on fera des choses avec. Donc on voit bien que le Groenland, ils vont avoir vraiment, ces pauvres Groenlandais, ils vont avoir une pression considérable, externe et en interne, même entre eux, parce qu'il y en aura bien quelques-uns qui diront, bah, quand même, c'est bien tout cet argent, on pourra peut-être se développer, avoir une meilleure vie, une vie un peu différente.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir, si vous connaissez la série Borgen, il y a eu une dernière saison là cette année qui est sortie. Donc c'est une série danoise qui se passe surtout sur la politique au Danemark, mais où la dernière saison qui est sortie là il y a peu de temps, alors que c'était déjà une série qui remontait d'il y a plus de 10 ans, se passe notamment sur ces enjeux au Groenland. Et c'est extrêmement intéressant, justement sur l'installation d'une mine avec les Chinois derrière et toutes les question justement liée à est-ce qu'on doit dire oui pour l'argent, pour des emplois potentiels, mais inversement, est-ce qu'on ne risque pas la pollution, des difficultés, est-ce qu'on ne va pas se faire tout simplement avoir et pour rebondir sur une autre forme d'opportunisme assez on va dire amusant, si c'était pas si finalement affligeant, il y a aussi actuellement au Groenland des gens qui vendent l'eau des icebergs en bouteille, qui la mettent dans des bouteilles de Bordeaux et qui la vendent une douzaine d'euros la bouteille, je crois, en parlant d'une eau donc qui a plus de 250 millions ou je ne sais plus combien d'années, bref, je suis là-dessus, je ne suis pas très bon. Et il y a aussi cet opportunisme actuel de vendre carrément l'eau, puisqu'ils se disent bah, toute cette eau qu'ils font, utilisons-la et vendons-la. C'est assez terrifiant. Et heureusement, il y en a qui répondent à ça en allant chercher l'eau de source directement, en disant mais à quoi ça sert d'aller chercher l'eau sur les icebergs? On a de l'eau source qui est parfaite et c'est celle-là qu'on peut vendre éventuellement de manière vertueuse, parce que aller chercher l'eau sur les icebergs, c'est extrêmement coûteux, extrêmement polluant. Donc en fait, ces gens contribuent en plus à continuer à se faire fondre les icebergs en allant la chercher sur les icebergs.
Et c'est peut-être là que le que les organisations internationales ont peut-être un rôle à jouer de justement d'aider financièrement les pays qui ont justement ces problématiques, ces choix problématiques à faire, pour les éviter, leur éviter de faire peut-être ce choix. Et vas-y, Alexander, peut-être que tu...
Yeah, you know, this is so much of what my fiction sometimes deals with in this question of when do we sell out, right? When do we sell ourselves out? And I'm almost never looking at the... In my stories, you don't really get to see the corporations, because I look at the humans that are affected by it. Like, we don't really... We are affected by all these corporate choices, and my experience is I can't call the CEO up and say, what's going on here, right? I just deal with the fallout of those choices. And so I have a story called Heartland, where what we sell off is the topsoil in all of our backyards. And so the character has already sold off all of the topsoil. So has all the neighbors. They've made their money. They got their topsoil. And everything is mud now. It's down to the clay level. And the decision that the character has to keep making is, how much more do I sell off? Do I sell off my children's privacy? Could I take photos of my children in the bathtub and put it on? It's quite a horrific story. But it asks this question of us constantly, when are we sacrificing our rights? When do we make, you know, the head of Nestle said that water is a privilege, not a right. That's a dangerous statement to me. That becomes very frightening when we start to take that. So the sci-fi can move into, well, what if we do that with air? Why not, right? And then what happens? And so this is always where I then go to this kind of question of the, I suppose, the corporate pressures that we as individuals end up dealing with.
Sur la question de, est-ce qu'il faudrait que les instances internationales interviennent, il y a eu cette situation-là en Équateur,
ouais.
L'Équateur qui voulait ne pas extraire du pétrole, je crois, de son sous-sol, pour dire, si on l'extrait, il va être utilisé et donc produire du gaz carbonique qui va s'accumuler pour partie dans l'atmosphère. Donc nous renonçons volontairement à utiliser une ressource qui pourrait nous rapporter de l'argent. L'estimation, c'est tant d'argent. Payez-nous pour que nous puissions ne pas l'utiliser. C'est-à-dire que si nous l'utilisons, nous aurons un bénéfice qui pourrait propulser, de donner à la population un gain de confort, on pourrait installer un réseau électrique, je ne sais quoi, des choses qui donneraient un confort, clairement, des hôpitaux à la population. Nous refusons ça, payez-nous pour ça. Et on voit que les intérêts, ça pourrait être les minéraliers qui disent, ben nous, on vous donne le double. Plutôt que d'être payé pour ne pas l'extraire, on va vous donner l'ONU, je ne sais pas qui, vous donnera 10 millions ou 100 millions de dollars, nous, on vous donne le double, le triple pour exploiter vos choses. Donc il y aura toujours cette affaire-là. Et dans le cas de l'Équateur, ben, ça a échoué complètement.
Ouais.
Ils avaient explicitement demandé à être qu'on les paye pour ne pas extraire et pour compenser finalement la perte, le refus qu'ils avaient d'extraire ça pour le bien commun de l'humanité d'une certaine façon. Ils disent, ben quand même, donnez-nous un peu. Ben non, ça n'a pas marché. Donc je crains que pour le Groenland, si eux devaient dire, pour éviter un extractivisme qui se poursuit, nous allons renoncer à extraire telle et telle et telle chose de notre sol, je pense qu'en plus ils sont très peu nombreux, donc ils ont une force de frappe encore moins grande du point de vue représentativité mondiale que ne peut l'avoir l'Équateur. Je crains le pire pour eux.
Oui, puis ils sont encore, ils sont en autonomie, donc ils sont encore sous perfusion du Danemark, qui leur donne quand même, je crois, 500 millions d'euros par an. C'est la moitié de leur budget, je crois, et le reste, c'est, je crois, énormément la pêche. Donc ils sont complètement, c'est très compliqué d'ailleurs, c'est souvent il y a du ressentiment des Groenlandais vis-à-vis du Danemark, en même temps ils ont besoin d'eux, et le Danemark n'a pas envie vraiment de lâcher le Groenland, parce que pour eux c'est un moyen d'être parmi les grands, les puissants, alors que s'il n'y avait pas le Groenland, ils ne s'y seraient peut-être pas, tout simplement. Et donc ils réinvestissent beaucoup actuellement leur politique et leur politique étrangère, notamment au Groenland, pour pouvoir rester dans le jeu, parce qu'ils sentent bien que beaucoup de choses vont se passer ici. Et de même que je lisais encore un article de scientifiques français, notamment, qui s'inquiètent beaucoup de la difficulté actuelle en France du budget sur les études, notamment en Antarctique, parce que visiblement les fameuses stations, enfin, je n'ai pas le terme qu'il y a là-bas, sont vraiment un peu laissées à l'abandon et vétustes, et peu d'argent est remis dans ces recherches, alors qu'elles sont primordiales et que la France y a en plus contribué de manière assez forte pendant des décennies. Et, et les scientifiques alertent là-dessus en disant mais il faut qu'on continue à tout prix à être présent, à faire des recherches, parce que sinon ce seront les autres qui prendront cette place, et c'est pas forcément toujours, ça sera pas toujours bienveillant. Je dis pas que la France est que bienveillante non plus, hein, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, il y a une vraie préoccupation actuelle, notamment du Danemark, pour revenir et remettre une main. Mais alors voilà, c'est toujours, c'est entre deux, est-ce que c'est bénéfique pour le peuple groenlandais ou pas, qui est le grand frère, on va dire, qui soit toujours derrière eux pour leur dire plus ou moins ce que vous devez faire. Et vraiment la nouvelle saison de Borgen, je vous la conseille, parce que ça traite vraiment, vraiment de ce projet, de ce sujet, et c'est assez fin, quoi. Voilà.
Donc on va peut-être prendre une à deux questions du public pour conclure. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Bon, on a encore très peu de temps, mais c'est possible. Et s'il n'y a pas de questions, ben on va conclure et remercier nos intervenants pour cette belle table ronde. Et on va laisser notre président prendre son train. Et Alexander aussi. Merci. Et bonne fin de festival.